Merci Tiffaine, bon week-end. Jean Sénac et Albert Camus, deux histoires algériennes, des voix, des chardons, de la fraternité, des orties, des épines, du rythme. René de Sécati revient sur l'œuvre complète du premier. Serge Martin et Alexis Lager mettent le second à l'épreuve de la poésie et sans doute vice-versa.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
La mort d'un poète, même assassiné, n'est pas un fait divers, c'est un destin. Tant que je ne serai pas mort, personne ne pourra être certain de me connaître vraiment, c'est-à-dire de pouvoir donner un sens à mon action. La mort accomplit un fulgurant montage de notre vie, c'est-à-dire qu'elle choisit les moments vraiment significatifs de cette vie, et les met bout à bout, en faisant de notre présent infini, instable et incertain, un passé clair, stable, sûr.
Serge Martin, Alexis Lager, René de Sécati, bonjour, bienvenue à tous les trois. Une heure qui s'ouvre non pas sur la voix de Jean Sénac, pas plus que sur celle d'Albert Camus, qui avec René Charles fit publier chez Gallimard, on y reviendra, mais sur celle de Pasolini, ou plutôt sur celle de Pasolini dans celle de Depardieu, extraite du documentaire « Vivre et encore plus » réalisé en 1976, soit un an après l'assassinat de Pasolini, soit trois ans après celui de Jean Sénac, une nuit d'août 1973 à Alger. La mort d'un poète même assassiné n'est pas un fait divers, c'est un destin, dit Pasolini. René de Sécati, commencer à parler de Sénac en partant de sa mort et en partant de Pasolini, comme on le fait ici, et comme vous le faites vous-même, dans votre préface aux œuvres complètes de Sénac qui reparaissent chez Actes Sud, c'est en faire d'abord un poète assassiné, c'est-à-dire d'abord un destin.
Oui, certainement. On est complètement frappé par la ressemblance des deux destins. Ce sont deux hommes de la même génération, deux hommes qui se sont beaucoup engagés dans la vie civile de leur pays. Bien sûr, on ne peut pas comparer l'Italie de l'après-guerre avec l'Algérie de la guerre et de la guerre d'Algérie, donc la guerre d'indépendance et de l'après-guerre de l'Italie de Ben Bella, puis de Boumediene, mais de l'Algérie. On ne peut pas comparer les deux, mais ils ont tant de points communs. C'est-à-dire que leur homosexualité, bien entendu, une manière d'ailleurs assez semblable de la vivre.
C'est-à-dire
C'est-à-dire culpabiliser pour Pasolini et refusant une certaine libération sexuelle, refusant tout le mouvement Peace and Flower, disons. Et il a refusé tout ça, il ne s'y est pas reconnu. Et Jean Sénac a eu d'abord une homosexualité dans laquelle il ne s'est pas complètement reconnu, qu'il n'a pas avoué, ça a été long à venir. Et puis une fois que ça s'est exprimé, il y a eu une sorte de confusion entre son regard politique sur un peuple qui va se libérer et son regard sexuel sur sa propre sexualité. Et donc il y a quelque chose de tout à fait semblable, un destin aussi sacrificiel. Tous les deux se sont sacrifiés pour leurs idées et ne se reconnaissaient pas complètement dans, au fond, dans les causes qu'ils défendaient. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que Pasolini, au fond, n'a pas reconnu ses amis au moment de mai 68. Et Sénac, c'était sans doute plus complexe. Bon, comme on le sait, il a tout fait pour que l'Algérie soit indépendante. Il a voulu la nationalité algérienne, qu'on lui a refusée d'ailleurs. Au fond, il y a eu une déception immense à la fin de sa vie. À partir du moment où Boumediene est arrivé au pouvoir, et d'abord il a été persécuté tout de même, il n'a pas eu la même liberté d'expression, et puis il a eu l'impression que tout était en train de se défaire. Je fais la comparaison entre deux transformations de poèmes qu'on fait tous les deux. C'est-à-dire que Pasolini avait écrit un poème qui s'appelle la meilleure jeunesse, reprenant la fameuse expression « Meglio Gioventù » de la Résistance, et poème merveilleusement positif sur le Frioul, sur... sur l'attente qu'il avait de la poésie, il l'a réécrit à la fin de sa vie sous le titre « La nouvelle jeunesse », où il inverse les termes, il inverse la poésie, l'optimisme. Et Jean Sénac a fait exactement la même chose. Il a fait la même chose, il a écrit « Citoyen de beauté », qu'il a réécrit en l'appelant « Citoyen de laideur », et où il a inversé le regard qu'il avait sur le monde algérien, non pas sur le peuple algérien, parce que là, son regard n'a jamais changé, mais sur la politique algérienne.
Ça veut dire quelle Algérie est-ce que Sénac espérait ?
Il espérait une Algérie fraternelle. Le problème, c'est qu'il a vécu la guerre d'Algérie de loin, hein, puisqu'il était en France, entre 54 et 62. Non pas qu'il se soit désintéressé, loin de là.
Non, il était très actif.
Très actif, et d'ailleurs, c'était une des raisons de sa rupture avec Camus, on va en parler. Mais en même temps... Il attendait une espèce de conversion des rapports humains qu'il a vécu d'une certaine manière, qu'il a vécu quand il a eu son émission Le poète dans la cité, puis Poésie sur tous les fronts, où là il a donné la voix.
C'est une émission donc qu'il a menée pendant quelques années, longtemps voilà, à Alger,
à la radio algérienne,
jusqu'en 71, jusqu'à ce qu'on lui enlève.
Jusqu'à ce qu'on lui enlève et qu'il ne soit plus persona grata.
René de Secati, pour en finir avec cette mort hein, par laquelle tout commence, qui est Jean Sénac à ce moment-là, c'est-à-dire en août 73, lorsqu'il est assassiné chez lui, hein, dans sa grotte, dans sa cave algéroise rue Élisée Reclus. Ça ne s'invente pas. Donc lorsqu'il est retrouvé mort, à ce moment-là, qui l'écoute encore? Qui le lit? Quel poète est-ce qu'il est devenu?
Il est un poète devenu obscur, très pauvre, puisqu'il n'a plus son émission. Il a en plus des difficultés pour être publié, parce que Gallimard a publié deux recueils de lui, un recueil grâce à Camus, donc en 54, dans la collection Espoir, et avec l'aval de René Char, qui est aussi très important dans sa formation poétique, et puis un autre recueil en 1968, avant corps. Il sait qu'il est dérangeant, il le sait depuis plusieurs années, mais ce qui est curieux, évidemment, c'est qu'on l'ait assassiné à ce moment-là.
Vous dites à René Secati que Jean Sénac, au fond, le sait. Et alors, c'est vrai qu'il donne aussi, très tôt d'ailleurs, hein, des indices de ce pressentiment dans sa poésie. Alors évidemment, dans les tout derniers, c'est d'autant plus marquant. Je pense au poème « Circulation » qu'il écrit le 24 mai 1973 et qui dit ceci. « Le temps qu'elle mettra pour arriver au centre, ça n'est plus bien longtemps. Pour le moment, elle hante les coins ardents. » Elle met des odeurs dans la bouche, des au revoir. Certaines nuits, elle vous touche comme un miroir. Elle est soigneuse et magistrate. Elle a son temps. Elle a son allure et ses strates et ses micas éblouissants. Dame de toutes mes aubaines et de mes pores. Elle est ma colonne et ma gaine. Bonjour la mort. Donc ça, c'est quelques mois avant son assassinat.
C'est un poème magnifique. Bon, on trouve des poèmes semblables de Pasolini. Mais bon, il y avait quelque chose de probablement plus métaphysique chez Jean Sénac. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de malheur intérieur contre lequel il luttait dans sa poésie. On n'a pas encore parlé d'un fait évidemment déterminant dans sa vie, qui est le fait que ce soit un enfant bâtard, et donc qu'il n'a jamais connu son père, et que la recherche du père a été fondamentale. D'ailleurs, les gens qui sont intéressés à son rapport à Camus lient justement ce fait biographique au rapport qu'il avait avec Camus. Il cherchait quelqu'un qui le reconnaisse, qui le fasse entrer dans le monde de la poésie et de la littérature, mais il avait besoin aussi que quelqu'un l'aide pour entrer dans la vie. Bon, il est né d'un viol, hein, c'est un enfant né d'un viol, ce qui est évidemment terriblement douloureux, et même le père, parfois, s'est rattrapé parce que le père officiel, celui qui le reconnaît, donc Edmond Sénac,
celui qui donne son nom,
qui donne son nom à Jean
Sénac, qui finit par donner son nom, parce que Jean Sénac va s'appeler Coma, je crois.
Coma, qui est le nom de sa mère, oui. Et donc c'est très douloureux parce qu'au fond il n'aura eu aucun rapport familial immédiat satisfaisant. C'est un événement qui explique aussi le caractère très sombre de de Sénaque et son besoin de lyrisme et d'idéal. C'est-à-dire qu'il y a cette détermination, entre guillemets, biographie, qu'il oppose une sorte d'idéal politique. Et on le sait, malheureusement, les idéaux politiques ne sont jamais réalisés.
Toute petite parenthèse, et on sait que Sénaque en faisait grand usage, par ailleurs, des parenthèses. Vous dites, René de Secati, à la fois donc, ce côté sombre et ce besoin de lyrisme, au fond, c'est un peu ce que dit ce petit signe, hein, ce petit soleil hein, par lequel il signait.
Par lequel il signait, un peu comme Cocteau. Oui, il y a quelque chose qui est merveilleux. Le film qui a été consacré à Sénaque avec Charles Berlin s'appelle Soleil assassiné. Et c'est tout à fait ça. Bien sûr, c'est le soleil de l'Algérie, mais c'est aussi une espèce d'espoir, de rédemption personnelle hein, en ce qui le concerne lui, et de libération d'un peuple.
Alors, on aurait pu ouvrir, évidemment, sur la voix de Camus. On en a déjà là, beaucoup parlé, qui fut l'ami, l'éditeur, hein, à qui Sénaque va dédier des poèmes, même un recueil, avec qui Sénaque va rompre, hein, évidemment, au moment de... ça va pas de soi, mais enfin, en tout cas, lui reprochant, évidemment, l'ambiguïté de sa position pendant la guerre d'Algérie. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais un mot peut-être sur ce qui... Unis et désunis ces deux-là, Alexis Lager, je m'adresse aux membres de la Société des études camusiennes. Je rappelle que Serge Martin et vous-même avez participé tous les deux à un colloque, le bien nommé colloque Camus et la poésie, qui s'est tenu fin septembre aux Salines d'Arc-et-Senans et dont on attend les publications. Quel est le Sénaque que vous connaissez, vous, Alexis Lager? Est-ce que c'est le lecteur de Camus? Est-ce que c'est par Camus? J'imagine que c'est par Camus que vous en êtes venu à lui.
Oui, c'est complètement par Camus, et surtout aussi bien sûr par cette rupture politique, avant tout, qui va séparer une amitié, alors une amitié qui est placée un peu sous le signe du père. Hein. Camus prend un peu la place du père pour Sénaque, de la même manière que Char va jouer ce rôle. On l'a déjà dit, il va contribuer à le faire publier chez Gallimard. Donc c'est, déjà, on a, si vous voulez... Une sorte de communauté d'hommes autour de la terre algérienne, je pense. Le point commun, le rapport entre eux, il est là. Et pour Sénaque, je pense que Camus a réussi à dire, en termes poétiques, cette proximité avec la terre algérienne. Voilà. Je pense qu'il était fasciné par le lyrisme camusien, d'une certaine manière. Il le dit dans une émission de radio qui consacre à Camus en 1949. Il va utiliser les termes de poète pour parler de Camus. Donc cette unité, elle se forme aussi autour de la poésie.
Et autour de Char aussi, parce que c'est quand même, au fond, une sorte de maître constant et partagé entre
les deux. Camus avait aussi eu l'intuition de présenter Jean Sénaque à René Char. Donc ça, c'était évidemment une très bonne idée. Et puis, il y avait un lien très fort. Il faut rappeler quand même que Camus a été extraordinaire en tant qu'éditeur. C'est-à-dire que sa collection Espoir, où il a publié René Char, donc Jean Sénaque et Violette Leduc, c'était quelqu'un qui était tourné au fond. René Char est à part. René Char, c'est en tant que résistant au fond, mais il était tourné vers des personnes humbles, qui étaient d'extraction humble et qui avaient en elles une capacité de transfigurer leur situation. Je pense que c'est ça qui a passionné Camus chez Jean Sénaque et vice-versa d'ailleurs. Hein. Ils sont tous les deux fils d'une femme de ménage. Donc c'est aussi très important.
Je pense qu'il se reconnaît aussi par l'intermédiaire de Sénaque. Oui. Hein, forcément, c'est la situation qu'il a vécue aussi. Il a vécu cette ascension sociale, Camus, par des personnes qui lui ont ouvert des portes. Malraux, Piat. Et donc du coup, je pense qu'il a envie de donner en retour aussi ce qu'il a reçu.
Mais il aurait peut-être pu aller jusqu'au bout. Enfin, on se demande si Jean Sénaque n'est pas la mauvaise conscience de Camus. C'est-à-dire qu'il serait allé jusqu'au... Peut-être qu'il aurait pu aller jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que Camus est mort en 1960. Que se serait-il passé les deux dernières années? Hein, maintenant, on fait un peu rapidement Camus, quelqu'un de l'Algérie française, etc. Alors, pas exagéré, c'était plus complexe. Oui.
Serge Martin, vous va opiner.
Vous avez dit, René de Secatti, que Sénac était devenu obscur. Je dirais que Camus, lui, est un poète invisible. J'aime beaucoup parce que cette remarque que je prends d'ailleurs à Camus lui-même. D'une part, poète, parce que il déclare dans l'énigme, qui est un très beau texte dans l'été, je ne sais pas ce que je cherche. Et s'il y a une belle définition du poète, c'est bien celle-ci. Je le nomme avec prudence, je me dédie, je me répète, j'avance et je recule. Hein, c'est le poète. Et puis, par ailleurs, dans l'homme révolté, il parle du grand style. Et pour lui, le grand style, c'est la stylisation invisible, dit-il. Et je pense que là, on a quelque chose de cet ordre, de ce travail, quoi, dans l'écriture, par l'écriture, de cette recherche de l'invisibilité. Et je pense que c'est très lié à ce que vous venez de dire sur leur origine sociale. C'est-à-dire, le grand écrivain, c'est le grand poète, évidemment, mais c'est un poète qui doit rester d'une certaine manière invisible. Et je trouve que c'est très beau que l'un soit resté obscur, même si maintenant,
Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. En plus, je pense qu'il avait totalement raison. C'est-à-dire que c'est la force du style. Le style ne doit pas se montrer lui-même. Il doit être une nécessité intérieure. C'est pour ça qu'il a été sensible à quelqu'un comme Violette Leduc, par exemple. C'est-à-dire qu'il cherchait chez des écrivains ceux qui arrivaient à trouver un style qui leur soit complètement personnel et sans aucun sectarisme. Je pense sectarisme, bien sûr, aucun sectarisme politique. Ça, Camus en est l'exemple. Mais aucun sectarisme stylistique, pas d'école, d'école. Et c'est en effet le cas de Jean Sénac, qui ironise sur certaines écoles formalistes poétiques. Il connaissait très très bien.
Hein, qui joue avec ses modèles.
Il en joue lui-même. Il en joue, mais avec ironie et avec distance. Il est capable de faire des poèmes formels ou d'un surréalisme un peu affecté, etc. Mais il a toujours une distance parce que ce qu'il cherche, c'est une voie intérieure.
Je dirais ce qui est commun chez les deux, c'est cette position très critique justement vis-à-vis de l'establishment poétique, quoi, d'une certaine façon.
Oui, c'est exactement ça.
Avec des exceptions, sauf Char.
Alors, on l'écoute.
Je crois que les poètes de ma génération, venant après le surréalisme et après la promesse de la fameuse nuit des éclairs dont nous parlait Breton, nous avons cru tout de même qu'il suffisait d'écrire des poèmes pour que l'ordre des astres soit dérangé, pour que la valeur cosmique du monde soit différente. Enfin, je crois qu'il est nécessaire de revenir à plus d'humilité. Ça donnera à notre poésie peut-être plus de richesse. Enfin, nous sommes des faiseurs de poèmes, et comme il y a des fabricants de pain ou de chaussures, et chacun a son rôle à jouer. Le rôle spirituel est peut-être un peu plus important dans la mesure où il imprègne l'âme. Mais enfin, vous savez, l'âme sans le corps, ce n'est pas grand-chose. Alors que le poète reprenne sa place, qui est modeste et importante au milieu des hommes. Je crois que c'est ça. Au fond, nous devons revenir à beaucoup plus de modestie. Beaucoup plus de... Je dis d'ailleurs dans un de mes poèmes, vous permettez, hein, nous avons besoin de beauté et de modestie. Nous avons besoin d'un orgueil beau comme un pain. J'entends par là qu'il faut perdre toute cette sorte d'euphorie un peu dangereuse et contagieuse que le surréalisme nous avait léguée.
Voilà qui est dit. Voilà, qui sont comptes réglés. Alors, la voix de Jean Sénac a l'une des rares archives, d'ailleurs, qu'il nous reste. Comment est-ce qu'il faudrait entendre ce terme de modestie, René de Secatti? Est-ce qu'il faut y voir une dimension? Alors, parce que ça rejoint un petit peu, au fond, ce que disait Serge Martin à l'instant. Est-ce qu'il faut y voir une dimension politique, éthique ou littéraire, comme cela semble l'être?
Éthique, probablement, hein, une modestie, il a toujours eu de l'amour des gens simples, hein, et donc il ne s'est jamais mis en avant, et s'il avait une émission littéraire, c'était pour faire connaître des inconnus. D'ailleurs, Hamid Nasser Hoxha est un de ces jeunes poètes qu'il a découvert et qui lui a été fidèle toute sa vie. Donc je pense qu'il y a ça. Politique, non. Parce que là, je crois que sur ce plan-là, malheureusement, il n'y a pas de manière de manière modeste de faire la politique. Quand on fait de la politique, on part au front. Donc, et on est obligé d'utiliser des armes. Et donc, ce qui est très dangereux pour un écrivain, en tous les cas, parce qu'en effet, ça force à prendre un langage qui n'est pas nécessairement le langage naturellement littéraire. Sur le plan poétique, là aussi c'est ambigu, c'est-à-dire que bien sûr qu'il avait l'orgueil de tout écrivain, et que il espérait une reconnaissance, mais certainement pas pour lui-même. Je pense pas qu'il y a, il y a une amertume des poètes qui ne sont pas reconnus, que l'on ne sent jamais chez Jean Sénac, parce que même les difficultés qu'il a eues avec Gallimard, qui étaient en fait des difficultés politiques, hein, quand Gallimard cesse de le publier, c'est qu'on pense qu'il est trop engagé dans la vie algérienne, la vie politique algérienne. Il n'en a éprouvé au fond aucune amertume, et il savait que ça faisait partie du combat.
Est-ce que vous voulez bien, René de Secatti, nous faire lecture d'un poème de Jean Sénac?
Peut-être, je lis le début de « Citoyen de beauté », qui est un de ses poèmes les plus célèbres. Le poème est très long, hein, donc je n'en lis que le début. « Et maintenant, nous chanterons l'amour, car il n'y a pas de révolution sans amour. Il n'y a pas de matin sans sourire. La beauté sur nos lèvres est un fruit continu. Elle a ce goût précis des oursins que l'on cueille à l'aube et qu'on déguste alors que l'oursin d'or s'arrache aux brumes et sur les vagues module son chant. Car tout est chant, hormis la mort. Je t'aime. Il faut chanter révolution, le corps sans fin renouvelé de la femme, la main de l'ami, le galbe, comme une écriture sur l'espace de toutes ces passantes et de tous ces passants qui donnent à notre marche sa vraie lumière, à notre cœur, son élan. Ô vous tous qui constituez la beauté sereine ou violente, corps pur dans l'alchimie inlassable de la révolution, regard incorruptible, baiser, désir dans les tâtonnements de notre lutte, point d'appui, point réel pour ponctuer notre espérance. Ô vous, frères et sœurs, citoyens de beauté, entrez dans le poème. Voici la mer, la baie, parce qu'elle est un fruit de la lumière et de notre regard. Les jeunes corps sont pleins des signes de la mer. Oh, je répète, car la beauté sur notre page est d'une reconnaissance infinie. Tout est lumière et chant, tandis que la révolution façonne ses outils. Voici la mer, ton corps, marais salant où je règne assoiffé. Nous boirons la mer, je boirai ton âme. Ivre de sel, ivre de soif, à petits coups je bois ton âme. Quel espace dans nos connexions les plus closes, quelle mutilation dans cet alambic saccagé, tu rayonnes, porteuse de planètes, au bord des abîmes de l'un, sur l'autre versant de nous-mêmes, nous basculons, voici la mer.
Merci. Alors c'est aussi dans ce fameux poème qu'il écrira « Tu es forte comme un comité de gestion, comme une coopérative agricole, etc. Oui. » Non, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette... certains ont ricané même de ce...
Il l'a payé très cher, ce vers.
Qui dit donc « Tu es forte comme un comité de gestion, comme une coopérative agricole, comme une brasserie nationalisée, comme la Rose de Midi, comme l'unité du peuple, comme une cellule d'alphabétisation, comme un centre professionnel. Et plus loin, je t'aime, tu es ma folie positive, comme une pastèque bien rouge, comme le sourire d'Ahmed, comme une chemise de Chine, une djebba de Yasmina, comme un beau discours politique, comme un camion plein de rire, comme une jeune fille qui retire son voile. » Alors, au-delà de ce qu'on a pu prendre, alors, au choix, parfois pour une forme de provocation, d'ironie ou de candeur, vraiment, effectivement... Il y va. Je voudrais revenir sur ce qu'il disait, sur ce qu'on entendait de Sénac tout à l'heure dans cette brève archive. Vous disiez au fond l'âme sans corps, ça n'est pas grand-chose. C'est encore ce qui est à l'œuvre ici, au fond. La politique, le politique sans corps, au fond, ça n'est pas grand-chose pour Sénac.
Là aussi, il y a probablement une certaine illusion. Il a cru qu'on pouvait en effet mêler ses besoins corporels, sa sensualité, avec un besoin révolutionnaire. Mais il faut savoir ce qu'on entend par révolution. C'est-à-dire que la révolution dans un pays qui a été dévasté par des guerres, qui a été avec des êtres qui ont été humiliés, qui ont vécu uniquement dans la mort et dans l'humiliation de la part des colonisateurs, évidemment doivent retrouver tout. Et doivent retrouver entre autres leur corps. Hein, parce que le corps de quelqu'un d'humilié, c'est un corps très particulier, qui n'est pas entier. Et donc, je pense que c'est à cela qu'il faut penser. Hein. C'est pas une révolution au sens beaucoup plus général, au sens aussi. Maintenant, une révolution éclatée en France, ce serait peut-être pas la même chose. Mais dans ces circonstances particulières, qui étaient une révolution qui suit une guerre, il faut que les êtres humains retrouvent leur parfaite autonomie. Donc il ne s'agit pas simplement du corps sensuel ou sexuel, mais du corps, simplement du corps libre. Hein, c'est dans ce sens-là que l'engagement politique de Jean Sénac considérait comme une totalité la libération humaine en Algérie.
Alors qu'en est-il justement du corps une fois, alors dans l'ordre, une fois la libération advenue, hein, la libération de l'Algérie en tout cas, que souhaitait évidemment Sénac, et une fois les désillusions arrivées, c'est-à-dire à partir de 65, enfin disons après Boumédienne évidemment, donc une fois le politique déçu, qu'est-ce qu'il advient du corps? Qu'est-ce qu'il advient de la sexualité, là, pour le coup, qui change aussi au même titre que sa poésie?
Là, il y a eu un autre problème, qui est le puritanisme des États totalitaires. C'était très, très surprenant. Enfin, on ne peut pas dire que Boumédienne a été un président complètement totalitaire, mais enfin quand même, ça va annoncer ça. C'est-à-dire que c'est une des premières préoccupations, en effet, de gouverner les corps. Enfin, Foucault a écrit là-dessus. Donc, c'est une des choses les plus troublantes. C'est pourquoi gouverner les corps, aller dans la sexualité des êtres humains, pourquoi avoir ce besoin de légiférer sur tout. Alors, l'Algérie, c'est dramatique, parce qu'à ce puritanisme-là, maintenant, va succéder un puritanisme religieux, donc qui rend les choses encore plus compliquées. Le corps se retrouve très rapidement sous surveillance et ligoté, d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, ça va de pair, c'est pas uniquement la sexualité, c'est la survie aussi des corps et leur liberté. Rabah Belamri a aussi écrit là-dessus, hein, sur sa grande désillusion, lui qui y croyait tant, dans ses derniers livres, où il a décrit cette grande déception d'une révolution qui est suivie d'une autre forme d'enfermement.
Alors, qu'en est-il justement? Parce que la question portait sur, au fond, les derniers poèmes, les dernières séquences de poèmes de Jean Sénac, où vraiment sa langue se rénove, sa langue est différente, où les poèmes d'ailleurs se font de plus en plus ramassés, où il joue de plus en plus aussi avec la ponctuation, jusqu'à parfois d'ailleurs n'être que point, ou jusqu'à ce que ponctuation soit trou et trou point.
Il peut même trouer la page.
Voilà, et point ou trou poème, en l'occurrence. Oui. Et où véritablement, là, sa poésie n'est quasiment plus que corps.
Oui, elle devient très érotique, mais même dans l'érotisme qu'il utilise, il y a encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un écho de son engagement politique. Alors, il y a probablement aussi le fait qu'il ait été exclu de la radio, qui n'est plus le même rôle, l'a tourné davantage sur lui-même. Et donc, il n'a plus craint de choquer. C'est-à-dire, non pas qu'il ait été retenu, mais probablement, brusquement, il a moins de censure pour s'exprimer. Et donc, parle du corps, mais toujours un peu comme Walt. On n'a pas prononcé ce nom comme Walt Whitman. Oui, en fait, parler du corps, c'est je chante le corps électrique. Enfin, c'est un peu ça, ce à quoi se réfère Sénac.
Vous pouvez peut-être nous lire l'un de ses poèmes tardifs.
Ça s'appelle. C'est un poème un peu cru, hein, mais enfin un peu violent. Il s'appelle Les beaux bordels. Les gosses n'ont pas été créés pour jeter des pierres aux barbus ni pour insulter les poètes. Mais vous avez entassé dans leur cerveau vos pourritures. Vous en avez fait cette petite racaille hurlante sur mon ombre. Ni les chats ni les chiens pour vos Cayenne appartements. Et vous en avez fait des bibelots fétides. Dieu, si tu es, monte, qu'est-ce que tu fous? Tout l'homme est sans dessus-dessous, caméléonisé sur son arbre à chatrure. Regarde comme il s'installe dans sa ruine et sa pestilence, avec ses petits moteurs, ses petites machines, ses petits zinzins, ses petits zazas. Regarde comme il grignote la cervelle du voisin. Avec quelle méthode dans nos chambres il plaque ses Auschwitz, ses Dresde, ses Hiroshima, ses villas Susini. Regardez, bande de cons. Mais il n'y a plus d'œil, plus d'yeux, que des anus repus par où s'engouffre la belle morale. Je choisis ce poème non pas parce qu'il est, il n'est pas particulièrement sexuel en réalité, mais il montre comment ceux qui condamnent une sexualité en réalité ont une double vie. Les pires moralisateurs sont ceux qui ont les vies les moins dignes.
La luna negra de los bandoleros canta las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Duras espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo.
Je voudrais insister sur le fait que personnellement je me sens et je me considère d'abord comme un artiste. Il me semble que je suis incapable de parler d'autre chose que de ce que j'ai éprouvé. Et même, j'irai plus loin, il y a en moi une sorte d'incapacité que je ne présente pas avec gloire, mais d'incapacité en tout cas à parler d'autre chose que de ce que j'ai longtemps éprouvé.
De Sénac à Ibanez chantant Lorca à la voix de Camus, on est en 55. Camus qui se voit en artiste, Serge Martin et Alexis Lager. Qu'est-ce que c'est pour Camus que cette tentation-là, on va commencer par celle-là déjà, avant de parler de celle du poète, celle de l'artiste hein, plutôt que l'écrivain, le philosophe, le journaliste, voire justement le poète hein.
Je pense qu'il veut déjouer, Camus veut visiblement déjouer les catégories bien établies dans le champ littéraire. Parce que quand il est essayiste, je crois qu'il travaille sa pensée comme un art du langage. Quand il est au théâtre, il travaille les paroles comme beaucoup plus comme des jeux de voix qui sont des expériences qui se rencontrent. Là, en écoutant Camus, j'ai tout de suite pensé. Alors, je ne sais pas s'il y faisait référence, je pense pas, mais je pense tout de suite à ce que disait Rilke sur tout ce qu'il faut pour écrire un vers. Quoi. Et Rilke faisait une liste infinie, c'est-à-dire qu'il faut attendre la fin de sa vie pour écrire un vers, d'une certaine façon. Non, mais cette concrétude absolument nécessaire pour écrire, ça c'est quelque chose sur laquelle insiste beaucoup Camus, cette dimension concrète, vivante. Je crois que c'est justement ce qui, d'une certaine manière, engage toute son écriture du côté d'une invention, d'un inconnu. Alors, il utilise le mot artiste. Il faudrait le situer précisément dans l'époque. Quelle est sa valeur? Je pense que ça, c'est pas tout à fait la valeur qu'on pouvait lire à la fin du 19e siècle. Elle est totalement rejouée. Là, c'est quand même après la Deuxième Guerre. Voilà. Et donc, il y a ce travail d'une énigme. Alors, peut-être, donc une énigme en termes génériques, mais en rajoutant tout de suite avec Camus une énigme heureuse. Ça me semble fondamental. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jubilation dans cette recherche. Peut-être c'est pour cela qu'il choisit le mot artiste. Quoi. Bon.
L'artiste est comme le dieu de Delphes, il ne montre ni ne cache, voilà. Il signifie, bien sûr. Alexis Lager, vous, comment est-ce que vous entendez cette position-là? Qui est celle de l'artiste.
Alors le mot artiste me fait penser aussi au terme de créateur. Camus utilise les deux. Peut-être que le mot créateur est plus marqué dans la lignée de Nietzsche. Et il englobe finalement des écrivains qui travaillent sur différents genres. Ça peut être Shakespeare, Char, qu'il va qualifier aussi de créateur. Donc, on voit ici que ce terme, pour lui, hein, peut être substituable, à mon avis, à celui de poète. Camus renonce à ce qualificatif de poète pour lui-même, mais il le remplace finalement, par ces mots artiste et créateur, pour envisager la création dans sa totalité. Pour lui, l'artiste, hein, c'est aussi bien le peintre, hein, que l'écrivain, que le sculpteur.
Mais pas que le poète.
Mais pas que le poète. Donc c'est ça qui est très intéressant.
Parce que quand vous dites il renonce, ça veut dire, j'imagine, qu'il y a un regret. Comme lorsque vous titrez, alors vous avez consacré un long article à la tentation du poétique dans les carnets de Camus, hein, dont on va parler évidemment, mais la tentation du poétique dirait justement un empêchement ou un renoncement ou une impuissance à réaliser.
Ce qui est intéressant, c'est que à plusieurs reprises dans les carnets, dans des interviews, il dit je ne suis pas poète. Et pourtant, on a toujours ce sentiment que la prose court après la poésie. Hein, c'est les mots de Jacotet pour parler de l'été. Comme si Camus volontairement s'empêchait.
Jacotet, donc c'est un fameux texte, hein, de Jacotet où il parle de l'été et où Jacotet dit que le poème court autour de la poésie sans l'atteindre.
Ça, c'est son point de vue. Pour moi, en tout cas dans l'été, il y a une atteinte de la poésie dans le dernier texte qui s'appelle La mer au plus près, où Camus donne un texte qui travaille cet inconnu dont parle Serge Martin, cet inconnu du sujet. Un texte qui lui semble lui-même bizarre. Il le dit à Maria Cazares. Hein, il n'arrive pas vraiment à qualifier ce qu'il est en train de faire à ce moment-là. Et pourtant, ce texte, c'est un des plus lyriques de Camus. C'est un texte qui s'approche du poème en prose, mais qui l'évite aussi. Comme si Camus, en tout cas à ce moment-là, hein, La mer au plus près, c'est en 53, donc après la dispute autour de l'homme révolté, hein, après cette querelle traumatisante pour lui, il avait besoin de revenir à peut-être à cette poésie, de la dire à nouveau, de s'y replonger à travers la figure de la mer ici. Moi, ce long texte, hein, me fait penser à des pages de Rimbaud, de Baudelaire. On a l'impression que Camus travaille sur des références poétiques, mais sans les admettre. Quand je dis qu'il est réticent à se qualifier comme poète, c'est sans doute parce que ce mot est trop marqué. Pour lui, le poète, c'est le lyrisme dans ce qu'il a de mou, de fadasse, un petit peu comme dirait Rimbaud. Et c'est ça qu'il refuse. Dès le départ, finalement, des noces, il dit qu'il est à la recherche d'une poésie plus haute. Hein. Et il va toujours s'identifier à des poètes qui, justement, s'éloignent de ce lyrisme subjectif.
Hein. Qu'il voit comme un masque.
Hein, qu'il voit comme un masque, comme une trahison. Hein. Ce qu'il recherche, hein, c'est une sorte d'authenticité. Voilà. Hein.
Vous écoutez France Culture, La compagnie des poètes, par Manu Farid.
Qu'est-ce que ça serait qu'une poésie plus haute alors ? Est-ce qu'il nous ramènerait, j'imagine, un char ? Est-ce qu'il a trouvé chez lui ?
On peut dire quand même que pour Camus, bon, il y a un grand poète qui occupe toute la place du poète d'une certaine façon. Sûr. C'est son grand ami René Char.
Le plus grand poète vivant, hein, voilà, c'est une phrase qui a beaucoup servi.
Donc la place est prise. Mais l'exigence de poème chez Camus est continuelle, enfin, depuis, d'une certaine façon, depuis toujours. Mais y compris, je dirais, même dans toutes ses œuvres. C'est-à-dire, moi, je ne réduirais pas Camus au meilleur de lui-même quand il ferait de la poésie en prose, enfin, de la prose poétique. Je pense que le Camus poète travaille par la question de la voix, y compris dans ses essais. C'est d'une certaine façon l'enjeu de ce poème invisible. C'est d'abord un poème qui travaille sa voix dans l'essai, un essai qui travaille sa voix, un théâtre qui travaille les voix, mais une voix aussi parce que une voix sous la voix, parce que peut-être ce qui est constant dans toute l'écriture de Camus, c'est un travail que j'appellerais presque de la voix double ou de la doublure, enfin, puisque bon, il a une grande expérience du théâtre. Il cherche toujours d'une certaine façon à être doublé, et alors doublé par, eh bien, cet inconnu, ce qu'il ne sait pas qu'il cherche, quoi, ou ce qu'il ne sait pas qu'il va trouver. Ça va jusqu'à, par exemple, c'est dans L'homme révolté, il utilise enfin, il fait référence au conte d'Andersen, où un enfant est le seul à voir que le roi est nu. Et je cite ce petit passage, il dit « Cette voix de la révolte
dira alors ce que tout le monde peut déjà voir. Donc une voix qui va faire voir, ou qui voit, une voix qui voit, c'est une magnifique définition d'une certaine façon de l'essayiste, bien sûr, mais c'est aussi le poète chez l'essayiste, a une voix qui voit et qui va faire voir. Et ça passe par l'enfance. Alors ça, c'est aussi tout un travail justement du poème jusque dans les essais, puisque là, c'est dans L'homme révolté. C'est l'enfance qui va faire voir. C'est l'enfance qui va faire penser d'une certaine façon. D'où l'importance de cette terre d'enfance. Enfin, qui va faire penser, y compris la littérature française. Quoi.
Alors pardon, juste pour préciser ce que vous venez de dire, Serge Martin, au fond, quand vous dites que vous vous en... alors, dans votre façon à vous de relever le poème, qui est presque en fait une façon de relancer sa pensée, c'est un peu comme ça qu'on lit aussi votre article, au fond, vous vous en remettez. Quand vous dites sa voix, vous dites sa prosodie.
Sa prosodie, fondamentalement, bien sûr. Oui, quand je parle de la doublure, j'ai examiné d'assez près pour le colloque, là, justement, ce travail des reprises doubles. Des doubles. Je peux donner un tout petit exemple. C'est dans La Chute. C'est dans La Chute, dans les premières pages. Je vous lis le passage, vous allez voir, parce qu'il est très important. Ce pays m'inspire, alors c'est la Hollande. Mais en Hollande, il y a une Algérie. Ce pays m'inspire d'ailleurs. J'aime ce peuple, grouillant sur les trottoirs, coincé dans un petit espace de maison et d'eau, cerné par des brumes, des terres froides et la mer fumante comme une lessive. Bon, vous avez vu que du froid à la mer fumante. Je l'aime car il est double, il est ici et ailleurs. Vous avez vu qu'il y a une rime intérieure d'une certaine façon, d'ailleurs et ici et ailleurs. Vous voyez, alors je dirais d'une certaine façon, un ailleurs deux fois. Bon, alors, on n'est pas en Belgique, mais... C'est ce travail permanent chez Camus d'une reprise de voix. Il est toujours insatisfait d'un énoncé. Et donc cet énoncé, pour le rejouer dans l'énonciation, il va le rejouer au moins deux fois. Voilà. Alors c'est tout simplement ce qu'on appelle la rime en poésie, tout bêtement, d'une certaine façon. Et ici, évidemment, on a une magnifique réflexion, enfin sémantique, quoi, d'une certaine façon, sur ce que c'est qu'un pays. Hein. Ce que c'est qu'un pays, c'est toujours un ailleurs ici, enfin un jeu constant, d'une certaine façon, assez énigmatique, c'est vrai. Et c'est le grand problème de Camus, hein, de ne pas savoir où il est exactement. Et en même temps, d'inventer cette espèce d'inconnu, d'un voyage tout le temps au présent, au plus présent. Et effectivement, c'est la prosodie qui invente cette voix, qui la construit.
Alors là, puisqu'on parle de voix, celui qu'on entend, Serge Martin, c'est l'universitaire qui est intervenu dans le colloque. Alors vous avez ceci de particulier, c'est que vous y êtes intervenu à deux reprises et sous deux noms différents, c'est-à-dire votre nom d'universitaire et votre nom de poète, hein, puisqu'il y a eu des tables rondes de poètes qui exprimaient au fond leur dette d'une certaine façon envers Camus. Deux interventions distinctes. Est-ce que l'un lit le même Camus que l'autre?
Ah oui. Bon, même si il y a toujours un peu de schizophrénie dans ce qu'on est, on peut toujours jouer le double. Mais le double chez Camus, justement, n'est pas de l'ordre d'un jeu de personnages. Enfin, hein, c'est de l'ordre d'une recherche, justement, d'un continu de toutes les expériences. C'est ce que j'ai essayé de faire.
J'y retourne au double, parce qu'on pourrait parler de jumeaux aussi. Enfin bref, j'y retourne sur le poète. Lorsque le poète intervient, vous expliquez que vous commencez par Ponge. Oui. Vous n'êtes pas le seul, après tout, Camus le grand lecteur de Ponge.
Je suis passé de Ponge à Camus.
Alors, vous êtes passé de Ponge à Camus et vous expliquez... Enfin, vous n'expliquez pas tellement pourquoi, mais enfin, vous dites, au fond, vous renoncez à Ponge pour cause d'autorité trop fascinante par sa maîtrise du langage, dites-vous, ce qui probablement vous lierait à nouveau également à Camus. Qu'est-ce que vous trouvez chez Camus et que Ponge, au fond, ne permettait pas de mettre en route, hein?
Camus admire Ponge aussi. Moi aussi, toujours. Mais... il lui reproche d'une certaine façon, dans son admiration, au cœur de son admiration, il parle de parole absolue. C'est le mot absolu qui est terrible.
Qui gratte.
Parce que c'est une posture d'une certaine, ça peut aller jusqu'à une posture qui empêche d'écouter, justement peut-être l'autre voix, ce qui travaille, ce qui contredit, parce que ce que cherche Camus d'une certaine façon, c'est pas une parole absolue, c'est une parole plurielle. Moi, il me semble que c'est vraiment ce à quoi travaille Camus en permanence. C'est pour ça qu'il rejoue toujours ce jeu du double, de la doublure. Enfin, je l'ai appelé comme ça. Voilà, et c'est une grande différence entre, je crois, deux modes d'écriture, celle de Ponge et celle de Camus dans ces années 50 et 60, après la Deuxième Guerre.
Alexis Lagé.
Je rajouterais que justement, cette voix, enfin, en tout cas, cette double voix, Camus la travaille grâce à l'art de la suggestion. Il me semble que c'est une caractéristique qu'on retrouve dans nombre de ses récits, en particulier les nouvelles de l'exil et le royaume, où Camus volontairement tait les choses pour que le lecteur finalement puisse avoir une place, puisse s'investir mentalement dans le récit. Et c'est vrai qu'il a cette belle expression dans ses carnets. Il écrit d'ailleurs à ce moment-là à un poète. Et il dit que la poésie est la garde des secrets. Je trouve que cette formule est très belle parce qu'elle peut s'appliquer à l'étranger. Quoi de plus énigmatique que la fin de l'étranger ? Moi, j'ai l'impression de ne pas l'avoir saisi, de la même manière que le meurtre, finalement, que va commettre Meursault. Quoi de plus énigmatique que la fin de la femme adultère ?
Hein ? Il faudrait peut-être rappeler la très brève histoire de la femme adultère.
Alors, la femme adultère... donc c'est la première nouvelle de l'exil et le royaume. Et on a un personnage qui s'appelle Janine, qui est un personnage féminin, ce qui est très rare dans l'œuvre de Camus. Et elle va suivre dans les hauts plateaux algériens son mari Marcel, qui vend des tissus. Et elle s'ennuie. Voilà, elle attend. Il y a une longue attente. Les personnages arrivent dans une oasis. Et elle va avoir une sorte d'extase sacrée face au désert. Lors d'une nuit.
L'extase cosmique même.
L'extase cosmique finalement. Hein, et là, vraiment, on sent aussi qu'il y a une écriture du corps. Camus utilise tout le vocabulaire charnel pour décrire cette extase. Et puis elle retourne dans sa chambre d'hôtel, retourne dans le lit avec son mari. Son mari lui demande ce qui se passe et elle va simplement lui répondre, et c'est la dernière phrase de la nouvelle, « Ce n'est rien, mon chéri, disait-elle, ce n'est rien. » Voilà. Et ça se termine par cette phrase,
deux fois,
qui forme un alexandrin. Hein. C'est une fin qui était très travaillée par Camus, puisque ce n'est pas la fin d'origine. Hein.
Oui, parce qu'il faisait intervenir le mari.
Ça faisait intervenir le mari, c'était une fin autre. Hein. Normalement, le mari la regardait et disait mais tu pleures, donc on avait plutôt quelque chose de tragicomique. Et ici, on a une fin énigmatique. Poétique, où finalement, on ne sait pas vraiment ce que veut dire Janine, et c'est au lecteur de trouver. Hein. Est-ce que ce n'est rien, ça veut dire que ce qu'elle vient de vivre, ce n'est rien, hein, elle va retourner à sa vie absurde.
Elle renonce.
Elle renonce, c'est le renoncement. Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est rien, c'est la volonté de garder le secret de ce qu'elle vient de dire. Un petit peu comme les mystiques, finalement.
Hein. C'est immense.
Ne pas dire. À partir du moment où on va nommer quelque chose, on va le perdre. Et donc du coup, on a un travail de la voix finalement, des voix narratives. On sent que la voix narrative donne à sentir ce que Janine veut dire, mais sans le dire. Et c'est exactement ce que je voulais dire par garde des secrets. On voit que ces fragments de prose poétique sont là pour taire. Et Camus le pressent très tôt ça. Hein. Dans les carnets, dès 38, hein, il dit que l'œuvre d'art est celle qui dit le moins. Hein. Alors ça s'applique tout particulièrement à l'étranger, hein, comme s'il avait constamment cette volonté de suggestive, hein, évocatrice, et qui paradoxalement peut le renvoyer à Mallarmé, hein, qui est justement le poète de la suggestion. Et pourtant, Camus a souvent des mots peu tendres vis-à-vis de Mallarmé. Hein. Pour lui, c'est un esthétisme. Alors voilà, c'est daté aussi. Voilà, mais je pense qu'il y a vraiment un travail, en tout cas, que la poésie investit la prose et la prose romanesque ou la prose narrative, et qu'on a certains moments comme ça dans le récit où elle est patiemment distillée et elle surgit. Et c'est tout ce qui fait finalement la beauté et la richesse du texte de Camus, ce qui le rend encore actuel, ce qui encourage à la relecture à chaque fois, ce qui le rend universel, finalement.
Alors, vous dites qu'elle surgit. Il faut peut-être préciser que, donc là, la nouvelle dont vous parliez, c'est une nouvelle tardive. Elle sera publiée en 57, crois, simplement. Et vous, votre idée, Alexis Lager, c'est quand même que l'interruption brutale de l'œuvre de Camus, hein, par donc, son accident de voiture en 60, aura empêché un mouvement vers la poésie.
Vers la poésie.
Qui aurait été un mouvement en cours. Que vous décelez à plusieurs endroits, donc en particulier dans les carnets, mais pas seulement, que vous voyez, vous, comme étant... il avait déjà entamé ce moment qui l'amenait vers la poésie.
Je pense que ce mouvement était entamé à travers Char. Camus projetait d'écrire un cycle, le cycle de Némésis, à la fin de sa vie, et l'essai qu'il préfigurait, même si on a peu de choses là-dessus, c'était des sortes d'aphorismes, à la manière... d'Héraclite, d'Empédocle. Hein. Donc on voit ici qu'on a une pensée poésie, hein, que la philosophie rejoint la poésie. En tout cas, il y avait ce pan-là. Et surtout, à mon sens, où ce versant poétique de l'œuvre de Camus s'exprime le mieux, c'est dans le premier homme, où on a une libération formelle. Agnès Piquel utilise les termes de roman poétique pour qualifier le premier homme. Donc roman poétique, hein, c'est un terme technique que Jean-Yves Tadier va utiliser. Et il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre dans le premier homme. C'est un roman historique, certes. C'est un roman autobiographique. Mais on a aussi la quête d'une phrase dans ce texte. Les dernières pages nous le montrent. On a justement ces jeux de reprises consonantiques, de reprises prosodiques. Comme si, finalement, derrière l'expérience de Jacques, qui est le personnage, le double de Camus, Camus cherchait une vérité. Voilà. Et on voit qu'il y a quelque chose qui dépasse le romanesque. Voilà. Et que l'écriture, en faisant vivre ce personnage, est à la recherche d'une vérité qui est, pour moi, poétique, finalement.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'au fond, c'est aussi... tout ça est affaire de définition, quand même, malgré
tout. Bien
sûr. Parce que dans votre contribution, dans vos deux contributions, hein, les deux articles, vous défendez une certaine idée de la poésie, une certaine vision de la poésie, hein, dans son rapport au monde, donc une sorte de chant... Alors, je vais très très vite, hein, mais de chant du monde, donc qui irait probablement du côté aussi d'un certain lyrisme. Ce sont les définitions que vous en donnez et qui viennent rejoindre celles que vous prêtez à Camus, enfin celles qui sont celles de Camus, il faut bien le dire. Qu'est-ce qu'on trouve de tout cela dans les carnets que vous voyez comme étant véritablement le territoire de la poésie?
Alors c'est vrai que quand j'ai fait cet article sur les carnets, je lisais beaucoup Jacotet. Et j'ai été frappé par la proximité parfois entre certaines notations de la Semaison et puis certains fragments de Camus où il va consigner jour après jour la couleur du ciel, tel bruit, voilà. Et toujours dans un travail du style, pourtant sur un écrit qui est d'ordre intime, comme s'il avait besoin dans ses carnets, hein, de retenir finalement dans l'espace de la page ce qu'il appelle le monde finalement. Hein. Chez Camus, on a l'histoire et le monde. Et le monde a toujours une forte valorisation sous sa plume. La nature également. Comme si face finalement à l'expérience de l'histoire qui est douloureuse, hein, qu'il va vivre, il avait besoin de conserver ces espaces de beauté, de les noter. Et je pense que Char a joué là un grand rôle. Hein. Toute la place est dans la beauté. Hein. C'est la formule de Char. Hein. Toute la place est pour la beauté dans nos ténèbres. Donc dans l'expérience traumatisante que va constituer la Seconde Guerre mondiale, il a besoin de garder ces valeurs-là. Alors, toute sa vie, finalement, il va chercher à nommer cela. Hein, cette part de l'homme qui n'appartient pas à l'histoire. Hein. On a cette formule dans des éditoriaux de combat. Cette part de l'homme qui n'appartient pas à l'histoire et qu'il retrouve devant la beauté du monde et des visages. Et je pense que, dans les carnets, on a cette volonté-là. Cette volonté de préserver, hein, de sauvegarder, finalement, ces instants, peut-être pas d'extase, mais de plénitude face au monde. Et pour moi, c'est de l'ordre de l'expérience poétique, finalement. Voilà. On est sur ce terrain-là, en tout cas.
C'est-à-dire que
le régime
de la poésie serait évidemment de cet ordre-là, mais serait au fond aussi... le régime poétique serait celui de la vérité aussi, d'une certaine façon, en tout cas chez Camus.
Exactement. Poésie et vérité ne peuvent pas se séparer, et c'est ce qu'incarne Char à ses yeux.
Alexis Lager, Serge Martin, René Tsekati, merci à tous les trois. C'est déjà la fin de cette émission, presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Oui. Oui. Je pense que ce qui rapproche Camus et Sénac, c'est la dimension révoltée. Parce que bien sûr, on a l'image d'un Camus installé, nobélisé, etc. Bon, mais il y a toujours eu un travail sous-jacent à cette quête de la beauté, articulé à une révolte foncière, alors autobiographique, comme on le disait pour Sénac également. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, il me semble que cette dimension de et une voix révoltée, puissante, et une révolte, sous-jacente.
Une révolte constante, puisque comme vous disiez tout à l'heure, le mot absolu étant contraire à la recherche poétique, même si c'est l'objet de la recherche, mais finalement, on ne pourra jamais s'arrêter. Donc c'est une révolte qui ne prendra jamais la forme d'une révolution définitive. Mais c'est curieux, parce que quand je vous entendais parler du premier homme, on pourrait rapprocher le premier homme des Boches du Père, puisque c'est deux textes posthumes qui sont tous les deux fondamentaux, et où probablement chacun cherchait quelque chose qu'il n'avait pas jusque-là exprimé, enfin qu'il n'avait pas exprimé sous cette forme. Il faut penser aussi, comme vous le disiez, à la présence de René Char, qui est extrêmement importante pour
c'est
tous les
trio,
deux.
Là. C'est ça.
Et oui, c'est vraiment un trio. Le fait que René Char ait préfacé le premier recueil de Sénac est fondamental.
Char est un poète révolté. En tout cas, il incarne pour Camus la révolte telle qu'il l'imagine. Il me semble. Je pense que les dernières pages de L'Homme révolté doivent beaucoup à Char. Hein.
Oui. En même temps, c'est une recherche très personnelle.
Mais c'est une recherche
très
personnelle
de celle de Char.
Voilà. C'est ça qui. On sent qu'il transpose des choses.
Je pense que dans ce qu'il appelle ce que Camus appelle le bonheur royal, et il dit qu'il y a toujours la menace qui pointe. Bon, et je crois que
l'angoisse de vivre.
C'est très puissant aussi.
Cela dit, je pense, de ce que je vous disais, de ce que j'entendais aussi par rapport à Ponge, je pense que Camus aurait été gêné. Finalement, par un certain René Char oraculaire.
Oui, surtout.
C'est-à-dire le côté oracle et énigme.
On a pu en faire aussi.
Ouais, et ce qu'on a, l'usage qui a été fait de la poésie de Char, c'est vrai. Mais, disons le Char Heidegger, un peu. Enfin, qui plaisait à Heidegger. Et qui était probablement pas le Char qui plaisait à Sénac et à Camus.
Non, ça, c'est ça.
Des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique, Bruno Mourlan, et comme toujours à la préparation, Thierry Beauchamp, et à la réalisation, François Connac. Vous trouverez toutes les actualités de Serge Martin, René Tsekati, Alexis Lager sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure, comme c'est bien, de la méthode scientifique par Nicolas Martin.